Ça, c'est 4:30. Un texte qui est bien connu. Je lis. Comme il fallait qu'il passe par la Samarie, il arriva dans une ville de Samarie nommée Sichar. Le « il », c'est Jésus, hein, évidemment. Près du champ que Jacob avait donné à Joseph, son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit « Donne-moi à boire. » Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit « Comment toi, qui es juif, me demandes-tu à boire à moi qui suis une femme samaritaine ?» Les juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les samaritains. Jésus lui répondit « Si tu connaissais le don de Dieu et qui est celui qui te dit « Donne-moi à boire », tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. » Seigneur, lui dit la femme, « Tu n'as rien pour puiser et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive ? Es-tu plus grand que notre père Jacob qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même ainsi que ses fils et ses troupeaux ?» Jésus lui répondit « Quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » La femme lui dit « Seigneur, donne-moi cette eau, afin que je n'aie plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. » Là, lui dit Jésus, « Appelle ton mari et viens ici. » La femme répondit « Je n'ai point de mari. » Jésus lui dit « Tu as raison de dire « Je n'ai point de mari, car tu en as eu 5 maris, et cela... » Et celui, pardon, que tu as maintenant n'est pas ton mari. Et cela, en cela, tu as dit vrai. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. La femme lui dit, « Je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. » Jésus lui dit, « Je le suis, moi qui te parle. » Là-dessus arrivèrent ses disciples, qui furent étonnés de ce qu'il parlait avec une femme. Toutefois, aucun ne dit que demandes-tu ou de quoi parles-tu avec elle. Alors la femme, ayant laissé sa cruche, s'en alla dans la ville et dit aux gens, « Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que je fais. Ne serait-ce point le Christ ?» Ils sortirent de la ville et ils vinrent vers lui. On va sauter au verset 39 et on va lire jusqu'au verset 42. « Plusieurs Samaritains de cette ville crurent en Jésus à cause de cette déclaration formelle de la femme. » Il m'a dit tout ce que j'ai fait. Aussi, quand les Samaritains vinrent le trouver, ils le prièrent de rester auprès d'eux. Et il resta là 2 jours. Un beaucoup plus grand nombre crurent à cause de sa parole, et il disait à la femme, ce n'est plus à cause de ce que tu as dit que nous croyons, car nous l'avons entendu nous-mêmes, et nous savons qu'il est vraiment le sauveur du monde. » Voilà, vous connaissez un peu tous cette histoire avec la Samaritaine. J'aimerais d'abord présenter un peu les Samaritains, parce que peut-être c'est pas très connu. Alors il faut savoir que les Samaritains sont un peuple qui sont nés à cause d'un certain Sargon II. Hein, après la déportation, il va déporter un peu plus de 27 000 Israélites dans le pays en déportation. Il va prendre par contre des gens de Babylone et il va ramener ça vers Israël et il va mélanger tout ça. C'était un peu la technique à l'époque des grands rois. Comme ça, si vous mélangez les peuples, on ne peut pas faire une rébellion contre le roi de Babylone. C'était malin en tout cas. Le problème, c'est que ces gens qui connaissaient Dieu à ce moment-là en Israël vont être mélangés avec des gens qui vont ramener leur propre Dieu. Et en fait, au fur et à mesure de l'histoire, il va y avoir une espèce de gros mélange entre la vraie foi et évidemment les idoles, etc. Je ne sais pas si vous vous souvenez de quand Esdras va reconstruire le temple, à un moment, ces gens-là vont vouloir travailler avec, et il va refuser, tout simplement parce qu'ils n'étaient pas du peuple réellement. Les Juifs prirent au fur et à mesure en horreur les Samaritains, Ils ne sont pas de pure race pour eux, et leur religion évidemment est mixte, ce n'est pas la vraie religion juive. Et donc voilà pourquoi il y avait une espèce de hostilité entre les juifs et les samaritains. On va reparler de ce mont Garazim, où ils vont construire un temple, les samaritains. Ce sera avec Manassé, à l'époque d'Alexandre le Grand. Plus tard, au IIe siècle avant Jésus-Christ, en 128, ce sera Jean Hyrcan, je ne sais pas si vous connaissez, qui va détruire ce temple une fois pour toutes. Aujourd'hui, il y a encore des petites cérémonies, parce qu'il existe encore quelques samaritains qui vont de temps en temps offrir des sacrifices le jour de leur pascale à eux. Voilà. Leur doctrine, ils attendent le Messie, parce que la femme samaritaine le dit, on va revoir ça tout à l'heure, mais ils n'acceptent que le Pentateuque, en fait, comme doctrine pour eux. Nous, on accepte, enfin, les Juifs acceptent tout l'Ancien Testament, mais eux acceptent que les cinq premiers livres de la Bible. Et donc, au fur et à mesure, comme ils n'ont pas la révélation complète, tout ça, ça s'est mélangé. Quand on ne connaît pas toute la parole de Dieu, on va faire avec ce qu'on a. Eux, ils ont fait avec toutes ces idoles qui est venue de Babylone. Voilà un peu pour les Samaritains, je ne sais pas si vous les connaissez. Mais ici, pour moi, le Seigneur nous apprend à évangéliser. C'est facile d'évangéliser ?
Non.
Non. Alors, je ne suis pas pour les techniques d'évangélisation, mais quand le Seigneur, des fois, nous donne des petites clés, il faut peut-être en profiter et apprendre de lui. Je pense que c'est le meilleur qui évangélise. Parce que lui, il nous apprend ici à évangéliser simplement. Je ne sais pas si vous êtes déjà allé voir quelqu'un, lui dire « donne-moi à boire ». On essaie de penser, qu'est-ce que je vais dire, je vais ouvrir la Bible, quel passage et tout ça, mais donne-moi à boire, je n'aurais pas pensé. Mais c'est simple, mais c'est direct, parce qu'il va dire la vérité sur la femme samaritaine. Et ça, ce n'est pas toujours évident, bon, c'est le Seigneur aussi. Mais nous, on peut tirer quelques leçons pour apprendre à mieux témoigner et appeler au salut les perdus, c'est nos voisins, c'est nos familles, c'est nos collègues de travail. Et là-dedans, je vois surtout que Jésus n'avait aucun préjugé. Lui qui était juif, ne devait pas approcher normalement cette femme samaritaine, quelle horreur! Mais lui, il l'a quand même approchée parce qu'il avait un plan pour elle. Et on voit que le Seigneur veut appeler tout le monde au salut. Et nous, des fois, on a des préjugés. Si les disciples avaient été là, à mon avis, ils auraient dit les samaritaines n'approchent pas. Et seraient passés outre, et cette femme ne serait pas convertie. Et ouais, nos préjugés. Première chose qu'on apprend dans ce texte, c'est que Jésus va rencontrer le pécheur. Il l'a fait avec chacun d'entre nous. De manière différente. Bon, ce n'est pas Jésus directement, mais il l'a fait au travers du Saint-Esprit et de sa parole. Mais voilà un moment de rencontre. Jésus vient de Judée, il allait en Galilée, il va traverser la Samarie, contrairement aux Juifs qui ne le faisaient pas, ils préféraient faire un détour, parce qu'ils avaient ses préjugés. Mais lui, là, va venir, personne ne le connaît, il était un simple étranger, et va se présenter tout simplement devant cette Samaritaine. Il est dans la ville de Sichar, peut-être tu peux appuyer juste... Alors Sichar, c'est une ville de Samarie, la Samarie c'est à peu près, je ne suis pas un grand géographe. Ici, vous avez la ville de Sichem, ici, qui est un peu plus connue. La ville de Sichar est donc une ville de Samarie à proximité de la pièce de terre que Jacob donna à son fils Joseph. Il faudrait relire Genèse 48. Les anciens commentateurs avaient supposé que Sichar était une altération grecque de Sichem, donc ils pensaient que c'était la ville de Sichem, mais tout le monde n'est pas tout à fait d'accord. On pense qu'elle est un peu plus éloignée, cette ville de Sichar, à peu près à 3 km de la ville de Sichem. Donc on voit à peu près où ça se trouve. Et donc, Jésus est dans cette ville et va être près du puits de Jacob. Mais je ne vais pas réexpliquer tout ça, c'est dans la Genèse. Il va s'arrêter à la 6e heure. Alors pour les Juifs, c'est midi. Alors midi, il fait chaud, surtout là-bas, très chaud. Et ça explique ici un peu la fatigue de Jésus. Il va s'arrêter. Mais si Jésus est fatigué, il nous rappelle qu'il est un homme. Vous êtes fatigué des fois ? Jamais, parce qu'on est des êtres humains. Alors pour ceux qui veulent absolument dire que Jésus n'était pas un homme, Jésus était aussi fatigué, il pleurait. Il avait les mêmes choses que nous en tant qu'être humain, même s'il était aussi Dieu. Il était fatigué à ce moment-là et se repose. Pendant ce temps-là, comme on l'a lu, les disciples étaient allés chercher des livres un peu plus loin. Ce qui est curieux, c'est que cette femme samaritaine va venir à midi. La coutume voulait normalement, c'est qu'on cherche l'eau le soir et jamais à midi. Alors peut-être que parce que les gens connaissaient sa mauvaise vie, elle y allait à midi pour que personne la raille tout simplement. Mais j'aime bien la souveraineté de Dieu, le manque de coutume d'une personne et les deux se croisent à un moment. C'est formidable, Quand Dieu veut appeler quelqu'un, il n'a aucun problème. Il ne faudra pas que quelqu'un nous dise un jour « Ouais, mais Dieu n'a pas pu m'appeler, etc. » C'est faux. Alors Dieu veut appeler quelqu'un, même si on ne suit pas la coutume, même si on n'est pas là où il faut, lui sait nous trouver à un moment. Et Jésus va engager cette conversation en demandant à boire, forme d'intelligence de Christ là, pour rencontrer la Samaritaine, parce que qu'est-ce qu'il pouvait dire d'autre ? Ils étaient à côté d'un puits, il y avait un bon timing, hein, les disciples étaient partis, au moins ils n'allaient pas l'embêter, il n'y avait pas de gens autour, puisque les gens ne sortaient pas à cette heure-là, et puis la femme samaritaine avait pris d'autres habitudes, donc le timing de Dieu, excellent. Le jour où Dieu vous a rencontré, c'est bien d'y réfléchir. Alors, on ne sait pas tout ce que Dieu a fait, mais la première chose que je demanderai à Dieu quand je serai dans le ciel, c'est comment tu as fait pour me rencontrer, hein, parce que c'est toujours intéressant de savoir ça. Et il va commencer cette discussion par, il faut lire Matthieu, Marc, Luc, Jean d'abord, les évangiles, il faut que tu sois théologien. Non. Parce que des fois, on se demande comment aborder les gens. Ben, on peut le faire simplement. Il fait beau aujourd'hui, hein. Ça c'est le truc classique en France. Il fait beau aujourd'hui, on s'en fiche complètement qu'il fasse beau. Ou alors comment ça va, hein. Et des fois on répond même pas et on s'en fiche en fait. Mais là, il fait une simple demande, donne-moi à boire. Et là c'est profond pour lui, hein. On va comprendre. Mais il engage la conversation avec cette femme. La femme, j'imagine, devait être un peu perplexe. C'est un juif, c'est un homme, il me parle à moi en tant que femme. Et en plus, en tant que samaritaine, ça commençait à dû travailler dans son cœur, à mon avis. Hein. Il n'y avait aucun lien, en fait. Il n'y avait rien qui les réunissait à ce moment-là. Et comme on l'a dit, les Juifs n'avaient aucune relation avec les Samaritains. Mais elle aussi avait des préjugés vis-à-vis des Juifs. Hein. On ne va pas jeter la pierre sur les Juifs qui avaient des préjugés vis-à-vis des Samaritains. Eux en avaient aussi et étaient hostiles, évidemment, aux Juifs. Mais une première leçon qu'on peut puiser là-dedans, c'est que le Seigneur avait une évangélisation absolument simple. Ce n'est pas des grands concerts, ce n'est pas des grands machins, des grands meetings, etc. Pourquoi pas ? Allez. Mais lui faisait les choses simplement. Et si on essaie de trouver peut-être des stratégies d'évangélisation pour nous aujourd'hui, ou comment moi-même je peux évangéliser, aborder peut-être un collègue, ben faisons-le simplement. Apprenons à connaître cette personne peut-être pour avoir déjà une conversation. Et puis, prions peut-être aussi pour cette personne. Et on ne sait jamais, à un moment, ben Dieu va permettre une situation qui va permettre justement de parler de Jésus-Christ. Est-ce qu'on prie le matin pour rencontrer quelqu'un et lui parler du Seigneur ? On ne le fait pas toujours, on oublie, hein, évidemment, on est des êtres humains, mais c'est bien de temps en temps de prier. Ou alors dans nos prières régulières, Seigneur, ben, moi j'ai des collègues de travail, je prie pour que, ben, à un moment, il y aura une situation donnée. Il y a beaucoup de musulmans là où je travaille, donc ça va être un peu moins facile, mais pourquoi pas ? On verra ce que le Seigneur va faire. Deuxième leçon, c'est que Jésus rencontre le pécheur et maintenant va lui proposer le salut, hein, les versets 10 à 15. Il va se révéler à la Samaritaine et montre l'importance de cette rencontre. Parce qu'il va dire, si tu connaissais, si tu me connaissais, tu agirais autrement. Hein. Si tu connaissais le don de Dieu, c'est-à-dire la chance que tu peux rencontrer le Sauveur personnellement aujourd'hui. Je ne sais pas vous, mais vous auriez voulu rencontrer Jésus face à face ? Eh bien, il y a que moi peut-être, hein, deux, trois j'ai vu, ouais. Après on fait le fier aujourd'hui, peut-être qu'on n'aurait pas fait le même fier si on était en face de lui, hein. Est-ce qu'on l'aurait reconnu comme tel ? Parce qu'on dit souvent à l'époque, personne ne croyait, mais est-ce que moi j'aurais cru ? Un jour on le verra face à face, mais là, ça sera dans toute sa gloire et ça va être un peu moins drôle. Hein, bon, enfin bon. Mais si tu connaissais le don de Dieu, c'est-à-dire la chance dont tu peux rencontrer le Sauveur en personne, ou si tu connaissais celui qui te demande à boire, c'est-à-dire le Messie, elle va le comprendre au fur et à mesure. Elle va le reconnaître aussi au fur et à mesure. Si tu connaissais Jésus, bah ta réaction aurait été complètement différente. Parce que comme il dit, c'est toi qui lui aurais demandé à boire. Mais pas de l'eau, évidemment, liquide, mais plutôt la grâce. Mais ça, on ne peut pas le comprendre tant qu'on n'a pas goûté, enfin goûté entre guillemets, Jésus-Christ et l'eau vive qu'il veut nous donner à nous. On ne peut pas le comprendre. Et c'est bien de s'en souvenir parce que quand on parle de Jésus à un non-croyant, il ne comprend pas notre charabia. Le patois de Canaan, comme on dit, hein. Il faut que tu sois justifié par la grâce. Le gars, il vous regarde, il me parle, monsieur, là. Il faut avoir des mots simples, et justement, Jésus le fait, là. Il emploie des mots simples, compréhensibles par la personne qui est en face de lui. Et il dit, donc, tu l'aurais demandé toi-même, et il t'aurait donné de l'eau vive, c'est-à-dire la grâce, et il aurait présenté le salut, il aurait présenté la vérité, il va le faire au fur et à mesure, et il aurait offert cette foi pour croire dans le Messie. Évidemment, nous, aujourd'hui, ce n'est pas la même chose parce que le Saint-Esprit travaille aussi dans ce domaine-là. Il y a la parole de Dieu, on la présente, on la prêche, Mais le Saint-Esprit travaille aussi dans le cœur des gens aujourd'hui. Il veut que tous soient convaincus de péché, de justice et de jugement. Hein. Et personne ne pourra dire, ah, moi je ne savais pas. Le Saint-Esprit travaille dans les cœurs. Donc, en fait, il prépare déjà les gens à nous d'aller les voir et rajouter peut-être la parole de Dieu. Et la question de la femme, enfin la femme va avoir des questions et peut-être une incompréhension. Hein. Comment peux-tu me donner de l'eau vive? Parce qu'elle a regardé le puits, elle a regardé Jésus, mais il n'avait rien pour puiser de l'eau. Alors ce qu'il faut remarquer, c'est qu'au verset juif, elle en parlait, au verset 9, elle en parlait comme un juif, et au verset 11, elle l'appelle maintenant Seigneur. Le ton, il a changé. C'est curieux. Et elle va lui dire, mais d'où tires-tu cette eau vive? Parce que, comme on l'a dit, Jésus n'avait rien pour puiser de l'eau. Mais évidemment, pour Jésus, c'était absolument métaphorique. Elle va demander, es-tu plus grand que notre père Jacob? Un petit orgueil, là, hein, quelque part. Ou en même temps, elle disait à Jésus, mais t'es qui? Tu prends pour qui? Hein? Nous, on a Jacob comme père. Et toi, t'es qui? Pour apprendre les choses. Là. Jacob, c'était leur père, et ils prétendaient, les Samaritains, descendre de Joseph, mais en fait, le mélange s'est fait bien plus tard, et donc c'est un peu prétentieux de dire cela. Mais il y avait aussi, ben, un peu comme les Juifs, hein, mais un orgueil national chez les Samaritains. Et pour eux, ben, cette eau-là, qui est un espèce de symbole de Jacob, ben, c'était suffisant, c'était leur religion, c'était leur patrimoine à eux. Ils étaient fiers que Jacob ait bu à un moment-là. On retrouve ça dans l'Église catholique aujourd'hui, hein, des endroits où quelqu'un a rencontré ci, et maintenant on en fait toute une idolâtrie. Et quelque part, ils idolâtraient aussi un peu ce puits-là. C'est une forme de superstition, une forme de religion. Les Samaritains, et elles en particulier, étaient attachés aux choses de la terre. Nous ne suivons pas une religion, nous. Enfin, moi, quand on me dit « quelle religion j'ai ?», j'ai pas de religion. Moi, j'ai la foi. La religion, ça ne m'intéresse pas. C'est les choses d'hommes, créées par les hommes, mélangées avec un peu de la Bible, mais c'est moi qui crée les règles, etc. Moi, je veux vivre par la foi, parce que Jésus m'a enseigné. Mais elle était attachée à ces choses terrestres. Elle ne pouvait pas tout comprendre, mais elle n'était pas attachée vraiment à Dieu. Si vous voulez être religieux, vous ne suivez pas Dieu. Alors, si nous, en tant que chrétiens, on dit être religieux, ça veut dire être spirituel et suivre vraiment le Seigneur. Jésus va répondre, il y a deux façons en fait d'étancher la soif. Tu peux boire tout le puits de Jacob, vas-y. Bon, ça va faire mal à un moment. Tu peux boire tout, mais tu auras toujours soif. En d'autres termes, tu pourras aller faire ta religion en long et en large, elle ne désaltère pas. Hein? Faire des œuvres, ça ne guérit pas le péché, ça ne soigne pas l'intérieur, et finalement ça ne nous épanouit pas. Ça fait qu'épanouir l'orgueil. Hein? Moi j'ai fait plus d'œuvres que vous. Vous imaginez si on était au ciel comme cela avec nos œuvres, hein Robert? Moi j'ai plus d'œuvres que toi, moi je suis pasteur, attention. Il y aurait plein d'orgueil dans le ciel, hein? Ça ne serait pas le ciel, parce que normalement il n'y a plus de péché. Oui, mais les gens sont comme cela. On leur a appris que ça aussi. Hein, je pense en France, le catholicisme, ils ont plutôt désappris les choses, hélas. Mais voilà, ça ne désaltère pas la religion. Mais boire de l'eau vive de Jésus, celui qui connaît la parole de Dieu, qui a accepté Jésus-Christ dans sa vie, alors là, ça change tout. La vie est belle, non? Un peu?
Oui.
Ouais. Je vais vous voir lundi, je vais vous appeler « La vie est belle » avec votre patron, là, hein, en tant que chrétien. Alors, ce n'est pas avoir un sourire bête sur la tête tous les jours, on est bien d'accord, mais dans le cœur, il s'est passé quelque chose. Nous sommes devenus une nouvelle créature, les choses passées sont passées, maintenant tout est devenu nouveau. Alors, il y a nos jours de joie, il y a nos jours de difficulté, nos jours de preuve, on n'est plus seul. C'est quand même formidable d'avoir quelqu'un qui nous aide. Alors, souvent, on est dans la difficulté, mais on ne se souvient pas, et hein, je rejoins un peu ce que Rémi disait tout à l'heure, mais on n'a qu'un grand Dieu éternel, majesté, capable de tous les miracles du monde, vers qui on va rarement quand on est dans la difficulté. Hein. On préfère se débrouiller nous-mêmes. On est curieux. Hein. Pourtant, on le sait. Hein. Ben, quand tout va mal, ben, demandons au Seigneur de nous aider, tout simplement parce que c'est notre Dieu, parce qu'on a goûté à cette eau vive, justement, il y a quelque temps, le jour de notre conversion. Hein. Et donc, la femme devrait désirer cette eau vive, hein, mais son désir, là, à ce moment-là, était plutôt charnel. Ben, elle faisait avec ce qu'elle avait à ce moment-là. Hein. Et Jésus va lui montrer maintenant l'endroit où elle doit puiser cette eau vive. Évidemment, ce n'est pas dans le puits, ce n'est pas dans la religion, c'est dans un cœur repentant, un cœur qui change. Et pour ça, il fallait préparer son cœur. Pas dire aux gens, repends-toi. Moi, je n'ai jamais rien fait de mal, hein. Je ne suis pas tué.
enfin pas moi en tout cas, je ne vole pas, je paye mes impôts. Voilà, vous allez voir. Voilà, je fais comme tout le monde finalement. Pourquoi j'ai besoin de me repentir, hein, mais est-ce que tu as des mauvaises pensées? Tu t'es mis en colère une fois? Avec des mots. Voilà, pas très. La Bible nous dit qu'on est tous pécheurs. Tous. Il n'y a pas un seul qui n'est pas pécheur. Donc, à partir du moment que je pêche, ou si je dis que je n'ai jamais péché, je viens de commettre mon premier péché. C'est réglé. Voilà. Tout le monde a péché, donc j'ai besoin de me repentir un moment. Et ce qui est formidable, c'est que le Seigneur va le faire d'une certaine manière. C'est subtil comme il le fait. Mais chacun d'entre nous, à un moment, au travers du Saint-Esprit, au travers de la parole de Dieu, il s'est présenté à nous devant notre cœur et nous a révélé notre péché. Il y a deux réactions là. C'est pas vrai? Les autres font pareil que moi. Soit ben, je m'abandonne et je dis effectivement je suis pécheur. Et il vaut mieux le faire parce que c'est la vérité de toute façon. Et en même temps, celui qui le fait, qui se repent, eh ben, il va se passer une œuvre dans sa vie. Jésus va rentrer dans son cœur. Il faudra l'accepter évidemment comme sauveur et comme Seigneur. Mais un cœur repentant, ça change complètement la vie. La petite leçon qu'on peut tirer là dans cette deuxième partie, c'est que les personnes ne connaissent pas Jésus. Et ça, il faut qu'on l'ait vraiment dans la tête. Même en France, on dit un pays chrétien, mon œil, hein, ils ne connaissent pas. On avait fait une fois un sondage dans les rues, vous connaissez la Bible? Les gens, ils disaient, ouais, vous connaissez Jésus? C'est qui? Une star? Une rockstar? Non, ils ne savent pas ce que c'est. Et moi, je dois m'approcher de ces gens-là en ayant conscience qu'ils ne savent absolument pas qui est Jésus. Et à nous de présenter, justement, Jésus le plus simplement possible. Troisième chose, Jésus va maintenant conduire cette femme à la repentance, mais par la vérité. Enfin, on ne sait pas comment dire les choses. Ben, disons la vérité. Dites qu'on est pécheur. C'est une vérité. Que la personne n'accepte pas en face, on s'en fiche. Mais moi, je suis pécheur. Donc, ça ne me gêne pas de le dire, c'est une vérité. Et avant de recevoir cette eau vive, il faut d'abord se repentir. Et Jésus dit donc, parce qu'il connaissait, hein, Jésus est omniscient aussi, appelle ton mari. On pourrait se dire, mais c'est une drôle de demande de la part de Jésus. Comme ça, d'un seul coup, tu ne connais pas la personne. Appelle ton mari. En fait, il va pointer le doigt dans le cœur de la Samaritaine, exactement là où il y a son péché. Boum. Parce qu'il savait. Il ne la juge pas. Il est juste en train de pointer le doigt sur ce cœur qu'il a envie de guérir, tout simplement. C'est formidable, hein, le Seigneur, il nous sait dans l'état où on est. Il nous aime. Il va pointer le doigt sur notre péché, pas pour nous juger, pas en tout cas pour l'instant, mais pour nous changer. Mais nous, qu'est-ce qu'on fait, généralement? Notre orgueil, on n'a pas envie de changer. Voilà, on est fiers de nous. Ben, c'est dommage, parce que finalement, le Seigneur pourrait faire quelque chose pour nous. Lui, il cherche simplement à amener cette femme à la repentance. Sinon, ben, l'eau vive, elle ne pourra pas y goûter. C'est-à-dire la vie éternelle, évidemment. Alors, j'imagine un peu la femme qui vient tranquillement au puits à midi, comme d'habitude, tous les jours, et il y a un gars qui lui dit « Va chercher ton mari, parce qu'il sait exactement ce qui se passe derrière. » Je sais pas si d'un coup quelqu'un dans la rue arrive et vous dit votre péché là que vous cachez à tout le monde, comme ça d'un seul coup. Ouais, ça calme tout le monde d'un coup. Eh oui, ça nous calmerait tous. Mais Jésus l'a fait exprès parce qu'il avait un but là-dedans. Elle est prise en flagrant délit et elle dit ne pas avoir de mari, ce qui était un demi-aveu. Hein. Peut-être qu'elle l'a fait parce que la question était soudaine à ce moment-là. Mais le Seigneur veut l'humilier, pas l'écraser. Mais l'humilier dans le sens de « rappelle-toi un peu ton passé, rappelle-toi dans l'état où tu es, peut-être même la tristesse à cause de tout cela. Mais moi, je te dis la vérité sur ce que tu es, parce que je veux t'emmener à la repentance. Je ne veux pas te casser, je ne veux pas te juger, je veux t'emmener tout simplement à la repentance. » Évidemment, la Samaritaine, elle est dérangée par la vérité, et là, elle dit « comme nous, on va faire un petit détour avant d'avouer les choses. Hein. » Elle est maintenant gênée, détourne la conversation, et puis elle va reconnaître Jésus comme un prophète. Hein. « Ah, mais tu es prophète, hein. Allez, je te valorise un petit peu, je te gloriole là, comme ça tu oublies. » Oui, le Seigneur voyait dans son cœur. Alors, je ne sais pas si elle le faisait vraiment pour détourner, mais pourquoi elle dit ça à ce moment-là? Puis elle pose une question qui n'a absolument rien à voir par rapport à l'adoration que eux faisaient sur le mont Garizim. Hein, vous avez... Non, c'est pas grave. Et là, à peu près. C'est là où ils avaient construit leur temple et c'est là où les Samaritains adoraient leur Dieu, entre guillemets. Et ils posent la question, mais est-ce que c'est bien? Elle ne savait pas, en fait. Pourquoi elle pose cette question? Alors, soit elle détourne peut-être la conversation pour des sujets plus religieux, elle se dit peut-être comme ça, il me fiche la paix.
Ou est-ce qu'elle cherche peut-être vraiment le moyen d'être sauvée? C'est difficile de trancher. Peut-être même les deux. Mais le Seigneur veut vraiment la conduire sur le chemin de la repentance. Il faut connaître la véritable personne de Dieu pour être sauvé, adoré. Beaucoup de gens disent « je crois en Dieu ». Ok, pas de problème, mais ça ne suffit pas. Le diable croit en Dieu, plus que nous, parce que le diable était un ange avant. Il vivait à côté de Dieu pendant un certain temps. Il sait qui est Dieu, mais il ne lui obéit pas. Au contraire, il a complètement désobéi. Quand quelqu'un me dit « je crois en Dieu », je lui pose simplement la question « est-ce que tu lui obéis ?» Ah là, on me regarde un peu bizarre. Est-ce que tu obéis au fait que Dieu a dit que tu es pécheur? Est-ce que tu l'as accepté? Est-ce que tu obéis au fait que Dieu veut te sauver? C'est-à-dire que Jésus est mort sur la croix et qu'il veut être ton sauveur. Est-ce que tu l'as accepté? Parce qu'il faut obéir à cela. Vous voyez toute la différence entre dire « je crois en Dieu » et obéir à Dieu. Ça change complètement, parce que celui qui croit en Dieu, c'est un religieux et il n'ira pas loin. Mais celui qui obéit à ceux à qui il croit, en celui en qui il croit, ça change tout. Quand on dit qu'on croit en Dieu et qu'on ne veut pas lui obéir, on ne croit pas vraiment en Dieu, en fait. Ou on s'est fabriqué une image ou un truc dans notre tête. C'est la religion, tout simplement. Mais si on croit vraiment en Dieu, qu'il est tout-puissant, qu'il a donné son Fils sur la croix à cause de nos péchés, ben on a envie qu'obéir. Ça, c'est vraiment croire en Dieu. Et ça change tout dans la vie, évidemment. Donc, dans un premier temps, par rapport à la question qu'elle avait posée par rapport au temple, est-ce que c'était bien, est-ce qu'il faut adorer à Jérusalem ou est-ce qu'il faut adorer à Garazim, il ne va pas vraiment de répondre. Hein, il ne donne ni raison ni à l'un ni à l'autre. Mais ce que Jésus veut lui faire comprendre, c'est d'abord que Dieu, il est omniprésent. Il n'est pas coincé dans un temple à Garazim, de toute façon il n'y était pas. Il n'est pas coincé dans un temple à Jérusalem, de toute façon il est aussi parti de là, à cause du péché. Dieu, il est partout. Il n'a pas besoin d'un temple. Et puis il va trancher entre les Samaritains et les Juifs. Hein. Les Samaritains adoraient quelqu'un qu'ils ne connaissent pas, il dit lui-même. Donc ils n'adorent pas le vrai Dieu. Les religions adorent un Dieu qu'ils ne connaissent pas eux-mêmes des fois. Ils l'ont fabriqué de toutes pièces, mais ce n'est pas le vrai Dieu. Si un musulman me dit par exemple qu'il croit en Dieu, que c'est le même Dieu que moi, je lui dirais que ce n'est pas le même Dieu. Mon Dieu parle de Jésus-Christ mort sur la croix. Le tien, non. De toute façon, pour un musulman, Dieu c'est Allah, il est loin et il ne le rencontrera jamais. Ce n'est pas la même chose. Donc on ne peut pas se dire qu'on a tous le même Dieu, c'est complètement différent. Et là, le Seigneur le dit, le Dieu que tu vénères, entre guillemets, vous ne le connaissez pas, vous ne le connaissez pas du tout. Et simplement parce que ils ont refusé une partie de l'Ancien Testament, et quand on se prive d'une partie de la Bible, je ne connais pas Dieu vraiment. Et là, c'est une leçon pour nous. Alors évidemment, ce n'est pas évident de lire toute la Bible d'un seul coup et de la retenir par cœur, mais vous avez 120 ans peut-être, pour les plus forts, pour lire la Bible. Il faut 2 ans pour la lire en entier, un chapitre par jour. Alors jusqu'à 120 ans, on peut la lire 60 fois. Bon, enfin, il faudrait avoir commencé très jeune. On peut la lire au moins 10 fois dans sa vie en entier. Mais si je ne la lis pas en entier, si je n'ai pas lu Agé, par exemple, je perds une partie de la connaissance de Dieu. Je n'ai pas lu Abias, que tout le monde lit tous les jours, évidemment, j'en suis sûr. Philémon, etc. Il y a des livres comme ça, on passe les généalogies et tout ça. Oh, la généalogie, hein, les nombres. Chouette, ça. Le soir, c'est bien de le lire, ça va. Mais quand vous aurez l'audace de le faire, vous verrez que de temps en temps, il s'arrête et il y a des versets merveilleux. Ah ouais. Le Seigneur cache des fois des petits trésors pour voir si on est un peu plus. Hein, on va jusqu'au bout. Mais moi-même, en tant que chrétien, si je me prive de lire la Bible, je viens juste à l'église, j'apprends des choses. Mais je me prive de connaître Dieu vraiment. Et la question à un moment qu'on peut se poser, est-ce que je crois vraiment au Dieu de la Bible? Parce que des fois, je croise des chrétiens qui font telle et telle chose. Ah, je ne savais pas. Ah ouais. Bah oui, parce que tu ne connais pas tout simplement la parole de Dieu. Tu ne connais pas qui est vraiment Dieu. Et donc, je vous encourage évidemment, en tant que pasteur, à lire la Bible pour vous faire de mieux en mieux le portrait de Dieu et de Jésus-Christ. Mais au bout, ça ne sera que bénéfique pour nous. Parce que dans les moments difficiles, Matthieu 28, 19 dit quoi? Quand ça ne va pas, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à midi. Jusqu'à la fin du monde. Voilà, jusqu'à la fin de ma vie. Et ça, c'est bon de le savoir, d'implanter cette vérité en moi, parce que quand je serai dans l'épreuve, je peux prendre la main du Seigneur et je peux avancer avec lui. Donc eux manquaient de connaissances, les Samaritains. Par contre, les Juifs adorent celui qu'ils connaissent, hein, parce qu'eux acceptaient tout l'Ancien Testament. Et en plus, Jésus va dire, le salut vient des Juifs. Alors, on s'entend quand il dit ça, hein, c'est à cause de... parce qu'ils étaient le peuple... juifs, et surtout que la descendance de Christ, c'est Abraham, hein, mais je ne vais pas rentrer trop dans le détail, mais aussi parce que le Messie sera juif selon Ésaïe 53. Les Juifs, évidemment, n'acceptent pas que Jésus est ce Messie dans Ésaïe 53, aujourd'hui encore. La leçon pour nous, c'est que ce manque de connaissance de la parole de Dieu peut des fois nous conduire à une mauvaise adoration. Par contre, si je connais mieux Dieu, je sais comment il veut m'adorer. On va l'adorer. Des fois, on ne sait pas comment prier. Des fois, on ne sait pas quoi dire. Ben, lisez les prières de Daniel, de notre Père. Il y a un tas de choses dans la Bible qui peuvent nous aider à comment mieux prier notre Seigneur. Souvent, quand j'en parlais un peu avec les jeunes hier, on vient devant Dieu, « Seigneur, j'ai besoin de voiture, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça. » Amen. Dieu, il regarde. Qu'est-ce qui se passe là en bas ? Daniel, lui, s'approchait du Seigneur, pas de cette façon-là. Il faisait une espèce de confession de foi, il reconnaissait qui était Dieu. Une fois qu'on reconnaît qui est Dieu, lui se repentait, parce que quand on reconnaît qui est Dieu, ben, on ne fait pas trop le fier normalement. On a toujours un péché ou deux qui traînent à droite et à gauche, et là on a juste envie de demander pardon au Seigneur. Et seulement là, parce que je reconnais qui est Dieu, parce que maintenant j'étais purifié, là je peux dire ce que j'ai besoin au Seigneur. Mais je vais faire avec foi, parce que je sais à qui je demande la chose. Et c'est différent hein, que m'approcher vite fait comme ça et hop, je m'en vais. Le Jésus supermarché. Mais l'heure vient bientôt, dit Jésus, où les vrais adorateurs le seront en esprit en vérité. C'est notre heure à nous. Hein. Adoration en esprit, c'est-à-dire en harmonie avec la nature de Dieu, ce que Dieu veut vraiment, et tout cela est fait, il le fait au travers du Saint-Esprit qu'il a mis en nous au moment où on est de nouveau, où on se convertit. Et c'est formidable parce que nous, on a une vraie intimité avec le Seigneur. Des fois, il y a des gens qui disent « Ah, j'aimerais voir Jésus », mais tu as une relation avec lui déjà, c'est pas mal. Le visage, bon, c'est une chose. Sans aujourd'hui, hein, avec Facebook et tout ça, on ne voit pas l'autre à l'autre bout du monde et on est bien capable de le vivre, ça. Pourquoi on n'accepte pas d'avoir cette intimité, cette communion constante avec le Seigneur ? C'est formidable, non ? C'est mieux que d'aller à un temple tous les jours. Je préfère ça, moi. On va adorer en vérité parce qu'on va adorer Dieu tel qu'il est. Alors là, évidemment, nous, on a besoin du Saint-Esprit aussi pour qu'il le révèle et de la parole de Dieu, mais on l'adore tel qu'il est et non pas comme cette Samaritaine à ce moment-là. Adorer quelqu'un, un dieu fou. Et quelque part, il dit aussi, ben, il n'y a pas besoin de temple pour ça. D'accord ? Parce qu'aujourd'hui, le temple, il est où ? C'est moi, mais aussi l'Église. Hein. Parce que autant l'Église est le temple du Saint-Esprit, mais autant chacun d'entre nous, nous sommes le temple. Il n'est pas trop lourd, votre temple, ça va à porter tous les jours ? C'est formidable, hein ? Mais on l'oublie très vite, parce que quand on commence à faire les choses, on dit, oh, je suis le temple du Saint-Esprit, je suis en train de faire des bêtises, là. Le Seigneur le sait. Mais on n'a plus besoin d'un temple bâti. Maintenant, nous sommes, nous, en tant que corps de Christ, et avec mon corps, le temple du Saint-Esprit. Et donc, je peux adorer en vérité, en priant, en louant le Seigneur. La leçon que le Seigneur veut nous apprendre, c'est que la repentance nécessite d'abord que le pécheur croie en la vérité de Dieu. On ne peut jamais se repentir si on ne croit pas ce que Dieu me dit. Je suis pécheur. J'ai besoin de changer. Je t'offre une solution. Je t'offre la grâce. Je suis prêt à te pardonner. Mais il faut que tu acceptes cela. Si je ne le crois pas, eh ben, je ne peux pas avancer. Heureusement que pour la Samaritaine, elle était certainement préparée, un peu comme Lydie, hein, j'ai l'impression, elle va l'accepter. Et il va y avoir une nouvelle naissance, certainement, parce que quand on voit le témoignage qu'elle va avoir derrière, c'est certainement qu'il s'est passé quelque chose dans sa vie. Elle va reconnaître en Jésus le Messie et va devenir son témoin. Hein. Et les Samaritains attendaient le Messie, en fait, selon le Pentateuque. Parce qu'il y a une prophétie là-dedans, quand on parle du Shiloh, je ne sais pas si vous avez déjà entendu cette expression, ça se trouve dans Genèse 49, 10, et comme eux croyaient dans le Pentateuque, ils attendaient donc ce Shiloh. Je lis simplement le verset, « Le sceptre ne s'éloignera point de Juda, ni le bâton souverain d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne le Shiloh, et que les peuples lui obéissent. » Alors le mot Shiloh se trouve donc en Genèse 49, 10, il signifie le pacifique, vous attendez le pacifique. Et certainement un des titres du Messie, malgré les nombreuses discussions, la synagogue juive et l'église chrétienne sont d'accord pour admettre que Jacob avait là, d'une certaine manière, annoncé déjà le Messie. Alors, il y a plusieurs interprétations concernant le mot, certains traduisent par « celui à qui appartient le sceptre », on voit ça dans Ézéchiel, et donc qui fait référence donc à Ézéchiel, ou au Messie à qui Dieu a confié le jugement. Si vous avez le sceptre, vous avez aussi le jugement que Dieu confie. L'attente du Messie se trouve à maintes reprises dans l'Ancien Testament. Alors, je ne vais pas vous apprendre, hein, vous savez qu'il y a plusieurs passages dans la Bible qui annoncent Jésus. Plus tard, Jacob promettra la venue du Shiloh par le biais de la tribu de Juda, hein, puisque David va régner, et puis l'Éternel va choisir la tribu de Juda pour chef de tout Israël. Salomon chantera également le Messie pacifique, hein, donc il reprend un petit peu la, la prophétie de Genèse, puis les prophètes annonceront à leur tour la venue du Messie qui doit venir de la tribu de Juda et des sangs de David. Il faut noter que les écrits des bénédictions patriarcales retrouvés à Qumran, on a fait des découvertes il y a quelques années, traduisent Shiloh par le Messie légitime ou le Messie de justice. Mais en tout cas, cette Samaritaine, à cause du fait qu'elle croyait au moins dans les 5 premiers livres de la Bible, de l'Ancien Testament, eh ben, elle attendait quelqu'un. Elle attendait un Messie. Mais elle n'attendait pas bien. Mais Jésus lui dit maintenant, ben voilà, ce que tu attendais, c'est moi, tout simplement. Moi, je suis le Messie. C'est moi, le Christ, qui vient vers toi et vers les hommes, évidemment, comme le Sauveur. Et la Samaritaine va le croire, parce que son attente semble terminée, puisqu'elle va se mettre à témoigner. Elle a découvert son pacifique, on pourrait dire, ou son Sauveur. Et là, toute sa vie change. C'est formidable, non ? Il faudrait un jour que chacun donne son témoignage, qu'on fasse une petite compilation, là. Des pépites, hein, de parler comment le Seigneur nous a rencontrés. Même si ce n'est pas extraordinaire, hein, parce qu'on peut pas être un voleur ou un meurtrier avant comme Paul, mais chaque rencontre est absolument formidable. Et surtout quand on accepte Jésus-Christ dans notre vie. Elle se repent, certainement, même si le texte ne le dit pas, mais elle accepte là Jésus comme étant le Christ. Et la preuve, c'est qu'elle va témoigner de Jésus. Quand vous n'étiez pas chrétien, vous témoignez de Jésus. Maintenant, vous êtes chrétien, vous témoignez de Jésus. Non, c'est pas ça. Il faudrait normalement. On est des témoins, on est ambassadeurs de Christ. Et elle va témoigner de Jésus, mais comme le prophète. Parce qu'elle dit aux autres, mais il savait tout de moi. Et ça, il faut être prophète pour ça. Et il faut être Christ aussi. Et un témoignage qui va avoir du fruit. Hein. Il y a une question qui certains vont dire, non, c'est elle, ne serait-il point le Christ ? Pose la question à ceux à qui elle parle de Jésus, hein, car Jésus lui dit ce qu'elle faisait. Il y avait là un miracle extraordinaire pour elle, que quelqu'un sache exactement tout ce qui se passe dans sa vie. Et elle sait qu'il n'y a que Dieu seul qui connaît le cœur de l'homme. Dieu connaît votre cœur par cœur. Ce qui est encore plus formidable, il sait ce que vous allez penser demain, que vous n'avez pas encore pensé. Non. Et dans 20 ans, et dans 40 ans. Ça fait peur, on y réfléchit un petit peu. Mais il sait absolument tout ce qu'il y a dans notre cœur. Alors, si je ne connais pas le Seigneur aujourd'hui dans cette salle, ça ne sert à rien de cacher tout ça au Seigneur. Il lit comme dans un livre ouvert. Autant lui ouvrir la porte et le laisser entrer dans notre cœur. Ben, il y a peut-être des péchés, il y a peut-être une vie passée terrible, comme moi je l'ai eu autrefois, mais quand je l'ai accepté dans ma vie, ça a tout bouleversé et ça m'a fait du bien, beaucoup de bien. Ah, on pleure un petit moment pour nos péchés, pour tout ce qu'on a fait, hein. Bon, après chacun est différent, moi je viens loin, mais une fois que Dieu est rentré dans notre cœur, hein, on est bien. Bon, on va travailler demain, mais on est bien. Hein. On est bien. Et c'est ce que tout simplement le Seigneur veut faire dans la vie de chacun. Et quand vous dites ça aux gens, qu'est-ce qu'ils disent ? On fout de Dieu. Ils ne savent pas ce qu'ils loupent. C'est triste. Et il est dit que plusieurs crurent à cause de la déclaration de la Samaritaine. C'est formidable. Hein. Il vient juste se convertir et... Quand je me suis converti, j'en ai dit certainement des bêtises, mais j'arrêtais pas de saouler avec un gars qui m'a amené à mon travail tous les jours. Jésus, je ne sais pas où il en est aujourd'hui. Il a dit, on a vraiment un moment. Mais c'est dommage que ça ne continue pas après. Je ne dis pas que je ne témoigne plus, évidemment, je fais différemment, mais est-ce qu'au bout de 10 ans, au bout de 20 ans de vie chrétienne, ça y est, ben, j'ai un vieux chrétien, hein. Je sais absolument tout et je n'ai plus besoin de témoigner, on laisse ça aux jeunes chrétiens. C'est ça ? Ben non, le Seigneur nous appelle à témoigner. Et s'il y a une occasion, saisissons l'occasion. Mais à cause de son témoignage, plusieurs crurent. Et en plus, les Samaritains vont inviter Jésus pendant 2 jours. Ça serait chouette qu'on puisse faire un petit séminaire un week-end avec Jésus. Ça vous dirait ? Là pour la retraite, hein, si Rémi est d'accord avec le conseil. Si Jésus venait nous enseigner pendant 2 jours, ben il le fait quand même. Mais au travers de ces hommes qu'il a mis devant nous, hein, au travers des pasteurs, de ceux qui enseignent, etc., au travers de sa parole, il le fait toujours. Pas besoin de voir Jésus. Il nous a laissé sa parole, elle est suffisante. On n'a pas besoin de plus pour connaître Dieu, pour se convertir et pour avancer dans la vie chrétienne. Mais eux avaient la chance d'être enseignés pendant 2 jours face à face. Ils veulent un plus grand éclairage. Ah ouais, c'est qui Jésus ? On l'accepte, mais maintenant on veut mieux connaître Jésus. Et quand je vois la soif qu'ils ont là, parce qu'ils vont agripper pendant 2 jours, quand nous on va à l'église le dimanche matin, je suis fatigué. Moi. Et on y va en comme ça, en copinant, un peu fatigué. En fait, on devrait déjà être à 8 heures devant la porte en disant « Ouais, aujourd'hui, on va être ensemble, on va apprendre quelque chose avec le Seigneur. » C'est ça, non ? Bon, c'est à 10 heures hein, que ça commence. Parce que moi, je dors peut-être à 8 heures. Hein. Mais est-ce qu'on a cette soif d'apprendre? Je ne parle pas que de l'Église, parce qu'il y a notre culte personnel. Est-ce que le matin ou le soir, ou quand vous le faites, est-ce que j'ai soif encore de Dieu, comme j'en avais soif au début? Eux voulaient mieux comprendre les choses. À moins que vous soyez des grands spécialistes de la Bible, je m'incline, mais j'ai un doute quand même pour moi-même. D'accord? J'ai encore tant de choses à apprendre, mais j'ai soif d'apprendre, de connaître mieux le Seigneur. Pas pour notre intellect, hein, comme on avait vu avec Jeff la semaine dernière, mais pour mieux connaître Jésus, pour mieux saisir sa grandeur, sa majesté, pour mieux l'adorer, tout simplement. Et d'autres crurent encore en l'écoutant au verset 42, et il déclare être là le sauveur du monde. Romains 10 nous rappelle que la foi vient de ce que l'on entend. Est-ce que l'on entend vient de là? De Dieu. Si vous avez l'occasion de témoigner et que vous n'osez pas, notez deux, trois versets clés, Jean 3,16, Romains 3,23, des petites pépites comme ça. On peut simplement faire lire la parole de Dieu à quelqu'un si on est vraiment timide. Moi, si j'ai l'occasion d'avoir la Bible à côté, je fais toujours lire la personne exprès. Parce que c'est la parole de Dieu qui va aller directement dans mon cœur. Et c'est bien d'avoir des versets comme cela. Présentez-le et expliquez un petit peu, si on peut le faire. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Je ne peux pas avoir la foi si je n'entends pas la parole de Dieu. C'est impossible. Alors des fois, ça commence par une prédication, ça commence peut-être par une conférence, ça commence d'une manière ou d'une autre, mais au bout, il faudra de toute façon retourner là-dedans pour aller rencontrer Jésus-Christ. Moi, on m'avait parlé de Jésus autrefois, et j'avais fait un portrait de philosophe, j'étais très philosophe, et quand j'ai commencé à relire Matthieu, Marc, Luc, Jean, que j'ai rencontré Jésus-Christ, j'étais chrétien, enfin j'étais dans une église avant, j'ai vu les chrétiens, j'ai dit, c'est ça, Jésus, je veux le garder, j'en veux pas. Mais quand j'ai vu qui était Jésus, alors là, ça a tout changé dans ma vie. Je l'ai vu comme il était. Et si on peut le présenter de cette manière-là, c'est mieux. On n'est pas parfait en tant que chrétien, hein, des fois on fait des bourdes, évidemment, mais ça ne doit pas arrêter les personnes non plus d'aller vers le Seigneur. Un champ d'évangélisation est ouvert à ce moment-là par la Samaritaine, encore une femme. Hein. Lydie a ouvert un champ, Samaritaine qui ouvre un champ, hein, mesdames, vous avez fait le sacré boulot. Hein. Et là, ensuite, ses disciples vont pouvoir moissonner, vont pouvoir expliquer les choses avec le Seigneur et un grand travail va se faire parmi les Samaritains. Donne-moi à boire et plusieurs conversions derrière. C'est fou quand on y réfléchit un petit peu. Donc, cherchons pas compliqué quand nous évangélisons. Le Seigneur nous montre qu'on peut faire absolument simple, simple, mais avec vérité. Osons dire les choses. C'est ça qu'on est un peu timide de dire que les gens sont pécheurs. C'est pas pour les juger, mais c'est pour leur rappeler que quelqu'un veut effacer ses péchés, tout simplement. Terminé, je l'ai dit au début, attention aux préjugés. Si un clochard qui rentre dans l'église, qu'il pue, je ne sais pas quoi, on va faire peut-être comme les juifs à l'époque avec les samaritains. Il y a les toilettes là-bas. N'écoute pas la parole de Dieu. Ben, on va essayer de supporter l'odeur. Qui sait, il va peut-être se convertir. Mais si j'ai des préjugés, je vais peut-être l'empêcher d'approcher. Hein. Moi, comme pour certains le savent, j'étais gothique à l'époque. Je suis rentré comme ça dans l'église. Vous imaginez les gens. Mais on m'a accepté. On m'a aimé. Bon, ça a mis du temps quand même, mais bon, il fallait s'habituer. Mais on m'a aimé et ça a tout changé. Pas de préjugés. Si les disciples avaient été là avec Jésus, ils auraient tout fichu en l'air. Hein. Ils auraient viré la femme samaritaine. T'as rien à faire avec notre maître parce que nous, on le protège, etc. Et la femme samaritaine ne se serait pas convertie. Jésus évangélise simplement, on l'a dit, et souvent dans l'intimité. J'aime beaucoup, là, souvent Jésus approche les gens seuls. Il ne fait pas des grands concerts, il ne fait pas des grands machins comme on fait aujourd'hui. On dépense des millions pour ces machins et il y a peu de fruits, rarement. Si on pouvait donner l'argent pour qu'on puisse acheter notre église ici, ça serait mieux. Ça serait plus intelligent, je crois, en stratégie. Bon, je vais me faire reprendre. Mais il approche les gens. Et par son Saint-Esprit aujourd'hui, le Seigneur approche aussi chacun d'entre nous par le Saint-Esprit. Et il y a cette intimité que Dieu veut avec nous. Et cette intimité, évidemment, elle va continuer après, quand on est né de nouveau. Jésus montre que sans révéler le péché, il ne peut pas y avoir de repentance. Il ne faut pas dire « crois en Dieu et tu seras sauvé ». Il faut lui dire « t'es pécheur ». C'est ça le problème. Et le péché, ça conduit où? En enfer, loin de Christ. Quand Jésus a prêché, il parlait plus de l'enfer que du paradis. Pourquoi? Parce qu'il veut faire peur aux gens, quelque part, et les prévenir que ce qui les attend pour l'éternité, c'est l'enfer, c'est d'être séparé de lui pour l'éternité. Or, nous osons le dire aux gens, ce qu'ils risquent, hein, s'ils ne se repentent pas, s'ils n'acceptent pas le salut que le Seigneur veut offrir. Le Seigneur nous dit aussi que le salut ne se garde pas pour soi, c'est pas parce qu'une fois que je suis converti, moi c'est réglé, je suis sauvé, j'ai ma place pour le paradis et pour l'éternité. Ce qu'il veut maintenant, c'est que comme lui l'a fait à l'époque, eh bien, que nous partagions ce que Christ a fait pour chacun d'entre nous. Et Dieu a mis un champ pour chaque personne, là où vous êtes, dans vos familles, dans votre lieu de travail, vos amis, etc. C'est là où nous devons annoncer, tout simplement, l'Évangile. Et si vous ne savez pas quoi dire, la Bible nous dit, le Seigneur vous aidera dans l'annonce de la bonne nouvelle. Le Seigneur nous aide à évangéliser simplement, qu'il nous aide aussi à compter sur lui, et qui sait, peut-être durant cette semaine, quelqu'un va se convertir à cause de notre témoignage. Prions. Seigneur, merci pour le grand amour que tu as pour chacun d'entre nous. Et tu l'as encore démontré au travers de la femme samaritaine. Tu connaissais sa mauvaise vie, pourtant tu l'as approchée. Et avec cet amour, tu lui as révélé son péché, non pas pour la juger, la condamner, mais simplement pour qu'elle puisse avoir l'occasion de changer de vie. Et c'est ce qui s'est passé, Seigneur. Et merci pour cet exemple d'évangélisation. D'abord, merci parce que tu as fait la même chose pour chacun d'entre nous, je l'espère, ici dans cette salle. Et si ce n'est pas le cas, eh ben, travaille le cœur de ceux qui ne te connaissent pas encore aujourd'hui, au travers de ta parole, au travers du Saint-Esprit, au travers du témoignage que l'on peut donner. Seigneur, merci de nous avoir approchés dans cette intimité et nous avoir donné la grâce, la possibilité d'être sauvés, d'être pardonnés de tous nos péchés, de tout recommencer à zéro, Seigneur, de naître de nouveau et de vivre une vie nouvelle, Seigneur. Bon, certes, on est encore pécheurs, mais nous ne pratiquons plus le péché. Et au fur et à mesure, nous changeons. Et merci, Seigneur, pour ce travail de sanctification que tu fais dans la vie de chacun. Te prier pour les différents champs que nous représentons, là où tu nous as placés, Seigneur. Et pourquoi pas cette semaine, donne-nous des occasions de témoigner. Je sais que ce n'est pas toujours simple, Seigneur, mais donne-nous la force, l'occasion, des moments, les bons mots aussi, la sagesse, Seigneur, pour ne pas te blesser ou ne pas faire mal. Voilà, nous te demandons ton aide tout simplement dans notre manière d'évangéliser. Et si tu le permets, ben, que quelqu'un t'accepte durant cette semaine. Prions en Jésus-Christ. Amen.
Amen.